Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne, 20h, 21h, en direct avec notre réalisateur Yanis, toujours... Il est toujours au taquet, toujours en place avec une superbe coupe de cheveux. Avec moi, Alison, qui est déjà sur le plateau. C'est quand même un petit exploit, Alison.
Oh là là, les mauvaises langues.
Je me réjouis de t'applaudir. Comment ça va, Alison?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Bah écoute, ça va impeccable. On a le grand aux cheveux longs, Vivien Boibanga, qui va nous rejoindre, qui est en train de s'installer. Au programme de ce soir, on parlera bien sûr du LOSC qui fait son entrée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face aux champions en titre, qui n'est autre que Chelsea, avec les compositions, Alisson, qui viennent d'arriver. Nantes, Paris Saint-Germain, Verratti risque gros après notamment ses déclarations d'après-match sur l'arbitrage. Et puis le grand retour attendu de Novak Djokovic. Voilà, vacciné ou pas, comme le dit Nadal, on a besoin d'avoir Djokovic sur les cours. Et puis on aura notre invité du soir, Soraya Marquet, qui sera avec nous, une kiné, qui sera avec nous juste après la première pause. Vivien vient d'arriver, Vivien tranquillement, Vivien sauve les meubles. Bonsoir Vivien, comment ça va?
Bah bonsoir Claude et bonsoir à tous.
T'étais en train de faire une tarte aux pommes à la maison et on t'a rapatrié vite fait, bien fait.
Voilà, toujours prêt à entrer comme les Lillois ce soir. Même quand on est outsider, faut toujours être prêt. C'est la leçon.
Mais est-ce que tu as quand même pensé à éteindre le four avant de partir?
Ah toujours.
C'est important.
Allez, on passe au JT.
Time Sport. Et oui, on démarre les infos du jour par du football en Italie. Hier soir, le Napoli d'Adamounas a manqué l'occasion de prendre la première place de la Serie A en arrachant le match nul 1-0 face à Cagliari. Le Milan AC reste donc leader, talonné par l'Inter. Les Napolitains, quant à eux, restent à la troisième position. En Italie, toujours la Juventus qui se déplace ce soir à Villarreal en Ligue des Champions devra faire sans ses deux capitaines, Giorgio Chiellini et Paolo Dybala, tous les deux blessés. On termine avec le football sur une bonne nouvelle pour les femmes aux États-Unis. C'est officiel, l'US Soccer annonce ce mardi que les footballeuses toucheront désormais le même salaire que les footballeurs en équipe nationale. On boucle ces infos par une info box. Tyson Fury va faire son retour sur les rings le 23 avril prochain pour y affronter son compatriote Dylan White, 7 mois après son dernier combat. Voilà, c'est tout pour les infos du mardi. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Le JT de Jason, il nous met toujours l'eau à la bouche. On passe tout de suite au premier sujet.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Ligue des Champions.
T'as vu un
scandale. Ouais, le LOSC qui fait sa rentrée ce soir en Ligue des Champions. Le LOSC affronte le champion d'Europe Chelsea avec les compositions Alisson du côté des Lillois, bien sûr. Honneur à nos Lillois.
Alors dans les buts, on aura Léo Jardim, on a Diallo, Botman, Font, Celic pour la défense. Onana, André et GK, Bamba, Sanchez et David en attaque, en pointe. Côté de Chelsea, je vais y aller.
Oui, parce que Vivien...
Edouard Mendy dans les buts. Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso, Ziyech, Pulisic et Havertz en pointe de l'attaque de Chelsea.
Ouais, donc je rappelle, c'est le LOSC qui se déplace dans un premier temps à Stamford Bridge avec mon anglais catastrophique. Est-ce que, ma première question, les amis, le LOSC a-t-il sa chance face à Chelsea?
Ça va être très compliqué. On sait que le LOSC traverse une période très très difficile en Ligue 1. 11e actuellement du championnat de Ligue 1. Ça avait bien commencé pour eux cette saison, mais c'était l'un des gringolades. L'équipe de Gouvernet qui a suivi plusieurs déculottés. On voit que dans le jeu, c'est vraiment difficile. On l'a vu contre Metz. On l'a vu aussi préalablement en championnat. Voilà, c'est en Ligue des Champions, paradoxalement, ils ont fini premier de leur poule, ce qu'on n'attendait pas du tout. Mais pour l'instant, c'est trop juste dans le jeu. Chelsea, champion d'Europe en titre. Donc voilà, on sait que si on parle de l'équipe intrinsèque, niveau talent pur, en tout cas, l'équipe de Chelsea, les Blues ont un avantage. Donc ce soir, c'est pas impossible. Mais en tout cas, ça va être très difficile pour les Lions d'aller chercher quelque chose en Angleterre.
Merci Alison. Vivien,
on va pas se mentir, ce serait un exploit pour moi. C'est si on est dit ce soir, c'est essayer un petit peu de rester en vie pour le retour en France. En plus, devant par exemple quelqu'un comme Jonathan David, qui était plutôt très bon jusqu'au mois de décembre, il a pas marqué en 2022, il est vraiment en manque de confiance. Donc là, c'est ce soir, ce Chelsea Lille, pour moi, c'est comme si on avait un combat David contre Goliath, et en plus David, on lui privait de ses frondes, de ses outils. Donc non, là, c'est clairement avec Lille aussi, faut pas oublier qu'ils ont perdu. Moi, je trouve même que Lille, ça a affaibli au mercato, parce que perdit Koné et même Reinaldo. Alors, je prononce souvent mal derrière.
C'est ça.
Enfin, moi, je trouve que même que le LOSC est moins fort, et c'est ça qui, moi, me fait très peur pour ce soir. C'est ce grain de folie qui pourrait y avoir devant, ben, cette flamme que je pourrais voir devant sur une ou deux occasions, je vois pas d'où ça pourrait venir, surtout que on a Edouard Mendy, peut-être le meilleur gardien du monde ou l'un des meilleurs en ce moment, qui est de retour. Enfin, là c'est très compliqué. C'est par exemple peut-être un des motifs d'espoir. Alors moi je fais partie de ceux qui sont
Ben Arfa, non, ne me dis pas Ben Arfa.
Voilà,
je vais me fâcher.
Alors moi, pour préciser aux éditeurs, moi je suis un grand fan de Ben Arfa depuis l'Euro 2004. On espère voilà, peut-être ça viendra, mais heureusement qu'il a mis sur le banc, parce que je pense même déjà qu'en termes de caisse, pour moi, je pense pas qu'il avait même 60 minutes dans les jambes.
Toute proportion gardée, Ben Arfa, je crois que ça fait depuis 2015 ou 2016 plutôt, qu'il a pas joué un match de Ligue des Champions. Déjà.
Au PSG, il en a fait un, je crois.
Et ensuite, il a joué, ouais. Il a rejoué. Et ensuite, ça fait plusieurs mois, je crois que ça fait 5 ou 6 mois, qu'il a pas beaucoup de minutes dans les pattes, Atem Ben Arfa. Donc voilà. Avec tout le talent qu'on lui connaît, on est d'accord. Mais si on met ça sur le côté, qu'on est sérieux, 2 minutes, un match contre Chelsea en Angleterre, où il y a énormément d'intensité, où Chelsea est là pour conserver son titre, pas pour faire figuration, on sait qu'il
fait. Qui est très dur à faire déjà.
Exactement. On sait que voilà, c'est pas Atem Ben Arfa, malheureusement, qui fera que Lille passera le cran. C'est quasi impossible, même si on sait que voilà, sur un petit exploit, il peut ramener quelque chose, mais j'y crois pas beaucoup.
Et après, en termes de stratégie, la question qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'il faut que Lille attende bloc bas? C'est ce qui va sûrement se passer, mais bon, on a vu qu'attendre bloc bas, alors s'ils perdent 1-0 comme Madrid au Parc, pour moi, je trouverais presque que c'est un résultat pas si mal. Si Lille défend 90 minutes, encaisse un seul but comme les Madrilènes, pour le coup, moi, je trouve qu'ils s'en sortiraient pas mal.
Mais c'est
pour
ça,
le
je
retour.
Pense que l'enjeu de Gorenec ce soir et l'enjeu des Lillois, c'est vraiment pas prendre un bouillon.
C'est ça.
Espérer faire quelque chose.
Pour au moins se faire plaisir au retour. Enfin, ils ont rien à perdre. Donc, le but pour moi, c'est qu'au match retour, voilà, il y ait une espèce de suspense qu'ils évitent de prendre un 5-0 comme récemment Porto contre City.
Quand on voit l'animation, justement, de Lille avec Onana, Cheka, André, donc on a affaire plutôt à un milieu de terrain à vocation défensive. Donc, on imagine que c'est dans l'optique de contenir les assauts de Chelsea et de procéder peut-être en contre-attaque, avec notamment Bamba, avec Renato Sanchez qui visiblement est un petit peu sur un côté. Tout va dépendre après de l'importance qu'il va avoir. On sait que lorsqu'il est bien, il peut éventuellement peut-être être capable de conserver le ballon et chercher des brèches. Et puis il y a Jonathan David qui plutôt fait sa saison. L'air de rien, Alisson.
Qui est pas mal. Je trouve qu'il a baissé un petit peu du pied les derniers matchs. Mais depuis le début de saison, il est pas mal. Davis, il fait ses matchs, il marque des buts. Il tient un petit peu son équipe, même si effectivement, jusqu'à présent, ça suffit pas. On le voit au classement de Ligue 1. Quand on pense que Lille est les champions en titre, on se pose un peu quelques questions, même si effectivement, ils ont perdu 2 grosses recrues au mercato d'hiver. Ce que je ne comprends pas, moi, la gestion de l'effectif lillois, quand on sait que on joue la Ligue des Champions, quand on sait qu'on va jouer Chelsea, laisser partir au mercato d'hiver 2 gros joueurs comme ça. Moi, je comprends pas tout à fait la gestion. Après, on n'est pas en interne, on sait pas ce qui s'est passé, mais c'est un point quand même à le souligner. On sabote un peu son équipe.
Lille est endettée depuis l'été dernier.
Ouais, mais c'est quand même du sabotage.
Sportivement, oui.
Ça aborde un peu son équipe quand on sait qu'on va jouer un huitième de championnat. Et on a que ça. Lille a que ça. Parce qu'en championnat, c'est cuit. En Ligue des Champions, c'est passé et de très belle manière jusqu'à présent. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Ça a fini premier de la poule. Et on laisse partir de gros joueurs. Donc, je comprends pas tout à fait la gestion. Mais bon, l'endettement, pour moi, ne justifie pas tout. À ce stade de la compétition, ça ne justifie pas tout.
Et puis, Burak Yılmaz sur le banc, qui était l'un des fer de lance du titre lillois la saison dernière.
C'est plus compliqué cette saison.
Euro loupé avec la Turquie et dans cette continuité,
peut-être que ça lui a fait mal aussi mentalement, cet Euro loupé.
Il a totalement disparu des radars. Hein. Seulement 6 buts en 26 matchs de Ligue 1, Yılmaz.
Il a disparu, il a du mal. On voit qu'aussi physiquement, il a du mal. Il court plus comme il pouvait courir avant. Il est plus aussi décisif dans le jeu qu'il était par exemple la saison dernière. On voit qu'Yılmaz. J'aime pas dire ça parce que c'est un joueur que j'affectionne, mais c'est un peu l'ombre de lui-même, cette saison en tout cas.
Oui, clairement. C'est pour ça que ce soir, pour beaucoup de joueurs lillois, c'est soit il y a vraiment le miracle qui vient et voilà, il y a une espèce de match référence où ça s'en sort peut-être avec un 0-0 ou peut-être même, pourquoi pas, un partout aussi. Lille a le droit de marquer ce soir, a le droit d'avoir une fulgurance aussi. Non, mais sinon, effectivement, tous ces joueurs qui sont en doute. Ça peut leur faire vraiment beaucoup beaucoup de mal, même si le championnat, ils sont très loin du podium. Mais en cas de déroute, ça peut vraiment leur plonger vraiment la tête définitivement sous le sable. Donc c'est quand même là où faut que Lille fasse attention, même pour Gourvennec dans sa gestion, etc. C'est pour moi, c'est si y a pas de qualification, Chelsea est largement favori. Il faut faire attention pour moi à pas s'effondrer dès ce soir en tout cas.
Lukaku sur le banc. Dans un match décisif, étonnant, pas étonnant, début de saison, saison moyenne pour le moment pour l'international belge, Alisson.
Saison très moyenne, et t'as Havertz qui fait le travail. Donc c'est surtout ça. Donc c'est pas plus étonnant que ça. Malheureusement, j'aurais aimé dire le contraire, mais c'est pas plus étonnant que ça que dans un match contre Lille, dans un huitième en tout cas de Ligue des Champions, il soit sur le banc. Mais je pense que Lukaku va rentrer en cours du match et va y aller de son but. Et malheureusement pour les Lillois, ça les enfoncera encore un peu plus. Je suis en train de faire le scénario du match comme si je l'avais déjà vu à l'avance, mais je vois bien les choses comme ça. En tout cas.
Et quand on voit le banc quand même de Chelsea, écoutez bien, ouais, Jorginho, Lukaku. Werner notamment, Saul, l'ancien de l'Atlético de Madrid, Mount également. Il y a du monde, mais il y a des arguments.
Aussi, quand on voit aussi le milieu de terrain, on se dit.
Et pourtant, Mount est absent, c'est ça. C'est qu'on peut même pas se réjouir de l'absence de Mount parce que.
Exactement, parce que quand on voit le milieu de terrain actuel, juste quand on voit Kanté Kovacic.
Voilà. Et Kanté revient bien en plus physiquement, c'est ça.
Exactement.
Le
donc on se dit, on retrouve le Kanté box to box qui casse aussi les lignes. On se dit comment Lille peut s'en sortir ce soir. Quoi.
Moi j'aurais même dit avec un côté peut-être un peu vicieux, j'espérais même que Tourelle mette Lukaku titulaire. Si je me projette du côté lillois, parce qu'il y aurait eu
un peu plus de chance de rater.
Oui, voilà, c'est pour ça que moi j'aurais vu Lukaku titulaire. J'aurais vu peut-être un semblant d'espoir. Et là,
il est là pour tuer le match. Enfin, je pense que l'aller, il est là pour tuer vraiment
clairement.
Mettre un gros score et se mettre à l'abri après, d'autant plus que maintenant il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Donc là, faut absolument gagner. Ça ne sert à plus à rien de faire des calculs si on marque après, comment on va faire.
Les buts comptent double, etc.
Gagner les matchs, et là Tourelle, il est clairement là pour gagner ce soir.
Donc Lille pour vous,
c'est dangereux au cœur du jeu, sur les côtés. Si tu fermes le jeu sur le côté, ça sent très bien. Enfin, c'est vrai que le danger va être de partout. Enfin, t'as pas un truc, et puis Lille n'a pas, par exemple, ce que j'appelle la caisse pour se dire on va aller les presser haut. Enfin, c'est pour moi, s'ils font ça, c'est peut-être là ils vont prendre un 5-1, on va dire. Donc c'est ça qui est compliqué, ce que peut-être certaines équipes ont un peu tenté en première ligue ces dernières semaines, mais je vois pas les Lillois être capables de se dire on va aller très haut, presque pour essayer de gêner un peu à la relance. Enfin, j'apprends que ça, ce serait le bloc très haut, ça pourrait leur coûter très cher.
Ça va être bloc bas contre. Si possibilité il y a, et dans ces moments-là, faudra que Davis soit lucide. faudra qu'il les mette au fond, il ne faudra pas vendanger les 3-4 peut-être occasions qu'il aura en première mi-temps, les 2-3 occasions qu'il aura en seconde mi-temps. Il faut marquer un but pour pouvoir rester en vie, et il faut surtout bien descendre, défendre, mais en bloc bas contre Chelsea, ça va être difficile de ne pas en encaisser au moins.
Ouais, bloc bas ou sinon bloc moyen-bas, avec la capacité peut-être de conserver le ballon, c'est pour casser un petit peu le rythme, pour essayer de la de la garder, de la faire tourner, et éviter peut-être que Chelsea se retrouve à trop avoir le ballon, parce qu'à trop subir un moment face à la qualité.
Ah non, oui, si Chelsea, tu restes trop derrière, t'es mort. Oui, oui, c'est tôt ou tard, ça va passer sur corner, sur. Enfin, ils ont avec Chelsea, je trouve, ce genre d'équipe, t'as tellement de façons dont ils peuvent te punir que. Oui, si t'espères bloc bas tenir un 0-0, c'est peut-être là aussi où tu vas en prendre 4 d'un côté.
Ouais, qu'est-ce qu'on fait, Vivien? On y va ou on y va pas?
Faut y aller. Dans tous les cas, faut
y aller. En tout cas, faut y aller. Ouais. Le match commence dans.
C'est ça. Le match commence dans 45 minutes, donc faut y aller. Faut jouer son va-tout.
Faut être propre dans. Oui, voilà, dans la relance.
Faut jouer propre. Exactement. Faut jouer simple. C'est faut ça. Jouer vite. Faut aller vers l'avant. Faut surtout pas, je le répète, hein, vendanger les quelques occasions que les Lillois auront. Et c'est peut-être là où ils vont faire douter Chelsea et les mettre en danger, parce que en bloc bas, ça sera un 5-0 à la Manchester City ou qu'ils ont mis il y a 2 semaines ou 3 semaines en Ligue des Champions. Ça va être trop difficile sinon.
Malheureusement, ils ont pas la même qualité, mais je pensais au match Manchester City Tottenham qui a eu le week-end dernier.
Le 3-2.
Ah, voilà, mais il faudrait que Lille fasse un match comme ça, mais bon, sauf que devant, on n'a pas Son Heung-min, quoi.
Et puis, il y a une question d'intensité.
Les équipes anglaises, c'est souvent ce que je dis, c'est que la première équipe qui arrive un peu à leur mettre le doute peut réussir à exister, mais.
Les premières 20 minutes sont très importantes.
Voilà, si encore 0-0, là, moi, je pense qu'il n'y aura pas force. Je m'attends pas forcément à une branlée ce soir ou à
une quoi, Vivien, mais ça a peu ou quoi?
Il
ne regarde que toi ses propos, mais il est complètement.
J'ai dit que je ne m'attendais pas à une déroute, justement. Ça fait un quart d'heure que je dis justement que je crois quand même pas mal à Lille et que. Moi, par exemple, je m'attends personnellement à ce qu'il y ait encore un semblant de suspense au retour.
Je suis pas de ton avis.
Villarreal Juventus, rapidement, c'est la seconde affiche de cette soirée. Comment vous voyez cette rencontre? 50-50, cette Juve plutôt.
La Juve, j'ai trouvé moyenne en Serie A, mais par contre, pas mal en Ligue des Champions. Moi. Enfin, à la phase de poule, j'ai trouvé qu'au contraire, ils ont été assez surprenants. Donc, comme a dit Alisson, pour moi, c'est un vrai 50-50, mais. Une vraie Juve en reconstruction et. Sur les deux matchs, je ne serais pas surpris quand même de voir Villarreal avancer, moi, se qualifier en quart de finale. Moi.
Non, je vois quand même la Juve passer, même si la Juve est malade, c'est un peu.
Match
retour à Turin. Oui.
Ils se sont quand même beaucoup crachés en 8e de finale, la Juve. Donc moi, je vois malheureusement cette mauvaise série se prolonger pour eux. Je vois cette mauvaise série pour la Juve se prolonger, c'est-à-dire des 8e de finale. Qui a été un peu leur plafond de verre depuis 2019. Moi, je vois encore une déception du côté de la vieille dame. Moi.
On verra ça déjà dès ce soir. Donc 21h, Lille qui se déplace à Chelsea. Villarreal reçoit la Juventus de Turin. Et puis en championnat australien, Melbourne City a battu Central Coast 3-2. La pub, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la seconde partie de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport. 20h, 21h avec mes consultants.
T'as pas une petite douleur à l'épaule, Claude?
Avec tu me coupes la parole, toi.
Ah, pardon.
Alors déjà, tu nous as évoqué un propos, Alisson. Nous, on a été choqués.
Ah, je suis complètement choquée.
Ouais, et là, maintenant, tu me coupes encore la parole. Alisson et Vivien.
Mes oreilles saignent encore.
Écoute,
j'aurais bien besoin d'une séance de kiné, moi.
Oh là là, la lourdeur.
Eh ben, écoute, on a notre invité, Soraya Marquet, qui est avec nous ce soir pour la première fois sur Beurre FM. Time Sport. C'est parti pour l'invité.
The Special One.
Nous sommes avec Soraya Marquet, kiné, qui est avec nous pour la première fois sur Time Sport. Bonsoir Soraya.
Oui, bonsoir, merci de me recevoir.
C'est un grand plaisir, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Écoutez, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir pour la première fois sur notre émission. Est-ce que vous pouvez un petit peu, bon voilà, on sait que vous êtes kiné, mais nous en dire un petit peu plus sur votre parcours.
Sur mon parcours professionnel?
Oui, oui. Après, si vous avez envie de nous parler de votre parcours personnel, quand vous étiez à l'école, la trottinette et tout, pourquoi pas, mais sur votre parcours, oui, bien sûr, professionnel.
Oui, je suis kiné du sport et du coup, j'interviens régulièrement sur un groupe d'athlétisme à Nancy qui est d'assez bon niveau. Voilà.
D'accord. Alors, quel groupe d'athlétisme, de quel club?
J'interviens sur un groupe du Nancy Athlétisme Métropole sur la section de Neuf Maisons.
D'accord, ok. D'accord, très bien. Vous êtes vous-même donc sur la Lorraine?
Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, j'habite à Metz et le groupe est sur Nancy, du coup.
D'accord, ok. Ah, la rivalité soirée entre Metz et Nancy. Pourquoi le sport, vous avez toujours baigné dedans?
Non, pas forcément, mais bon, mon compagnon est coach du groupe d'athlétisme et c'est vrai que c'est des bons jeunes, donc on a envie de les soigner comme il faut et qu'ils fassent des perfs qui sont à la hauteur de leur investissement.
Une question de Vivien, Soraya.
Oui, bonsoir Soraya. Alors, justement, vu que vous êtes en Lorraine, pardon, est-ce que vous connaissez une sprinteuse qui s'appelle Céline Distel, qui était en équipe de France de 4x100 il y a quelques années? Ou pas du tout?
Non,
pas du tout, non. C'est pour une simple curiosité. Enfin, pour rappeler aux auditeurs, c'est une athlète qui était aux Jeux de Rio et peut-être je pensais que vous étiez lié ou pas du tout.
Mais je la connais pas.
Sur la partie kiné, alors vous me direz comment vous le voyez en athlétisme, mais moi, par exemple, au basket, je vois de plus en plus de jeunes, pour moi, aller un petit peu trop chez le kiné, selon moi. Est-ce que vous constatez un petit peu ce type de phénomène en athlète ou pas du tout?
Alors, je pense que ça dépend un petit peu comment on intervient. Moi, j'interviens directement sur le terrain, donc c'est vrai que quand il y a des petites douleurs, etc., les jeunes viennent me voir assez rapidement. Mais ça me permet aussi d'écarter des risques qui pourraient être présents et qui pourraient pousser à aller chez le kiné trop fréquemment aussi.
Justement, vous dites que vous intervenez sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe précisément lors de vos interventions?
Moi, j'interviens régulièrement pour de la prévention, notamment au niveau abdominopelvien. Puis notamment du travail d'éveil de pied, etc. Parce que c'est une partie du corps qui est très très importante en athlétisme. Et puis après, voilà, j'interviens sur quand il y a des blessures en immédiat. Et puis sur la reprise du sport, c'est un petit peu plus technique que ce qu'on peut faire en cabinet, disons.
Et justement, dans cette période un petit peu de Covid, est-ce que vous avez constaté peut-être plus de blessures qu'à l'accoutumée, notamment dans votre club d'athlétisme?
Dans le groupe, pas tellement, puisque nous, on a continué à envoyer des séances aux jeunes, même pendant le confinement. Donc, c'est vrai que ça a bien évité les grosses blessures qu'il y a pu y avoir en reprise. Après, là, par exemple, sur les championnats de France jeunes, qu'il y avait le week-end dernier, il y a eu beaucoup de blessures aux ischios, etc. Je suis pas sûre que la proportion soit aussi importante que d'habitude.
Et justement, en parlant de championnat de France, donc vous parlez notamment, je crois, des régionaux de cross. C'était la demi-finale du championnat de France, etc. Quel type de conseils ou comment est-ce que vous accompagnez un petit peu les athlètes? On sait que c'est un peu l'épreuve phare pour les clubs d'athlètes, souvent les cross.
Moi, j'interviens beaucoup sur des sprinteurs. Et du coup, c'est vrai que les distances longues, on les pratique assez peu. En tout cas, moi, j'interviens plus sur des sprinteurs et des sauteurs. Après, voilà, c'est comme toute épreuve, il faut les préparer correctement, il faut être encadré comme il faut par un coach qui sait ce qu'il fait et une prépa physique qui est adaptée, quoi.
Vous parliez de votre cabinet, justement. Est-ce que vous intervenez de la même manière sur des patients sportifs que sur des patients non sportifs? Est-ce que les pratiques sont les mêmes? Est-ce que vous y allez plus doucement avec des non sportifs? Est-ce qu'il y a des spécificités, que vous pouvez exercer sur des patients sportifs et d'autres non, sur des patients non sportifs? Ou alors la pratique est la même pour tout le monde?
Alors, moi, je travaille pas en cabinet, je travaille en centre de rééducation. Donc, effectivement, on a des patients qui sont pas forcément sportifs et il faut évidemment adapter la pratique, quoi. Les patients sportifs vont avoir envie de rentrer dedans un petit peu plus rapidement, etc. les patients moins sportifs vont aimer être un petit peu plus pris en compte, plus à l'écoute, etc. C'est vrai qu'on a tendance à prendre un petit peu plus le temps.
D'accord.
Et on s'adapte au caractère.
Alors, ce qui fait un petit peu l'actualité à Nancy, c'est l'athlète s'appelle Oumar Dembélé, le jeune lanceur de poids. Est-ce que vous le connaissez personnellement? Parce qu'on a entendu qu'il est menacé d'expulsion. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez eu l'occasion de le côtoyer?
Oui, bah Oumar, du coup, il s'entraîne dans le groupe que j'accompagne. Donc, on se voyait régulièrement depuis septembre, puisqu'il cherche dans le groupe en septembre. C'est un jeune qui a réalisé du coup la sixième performance sur le sol français l'an dernier en lancer de poids pour sa catégorie.
D'accord.
Donc, il a lancé 14,96 m avec un poids de 6 kg. Et malheureusement, il a été placé en rétention début janvier, le 14. Et moi, j'habite sur Metz, donc le centre de rétention étant sur Metz, c'est vrai que je vais le voir très régulièrement. Et c'est une situation qui est assez incompréhensible pour moi et pour le club d'athlétisme, parce que c'est vrai que c'est un jeune qui est très bienveillant, très gentil avec les autres et très investi dans le sport, très performant. On s'est vraiment pas posé de questions quand on a lancé la pétition pour essayer de le sortir de là.
Et justement, pour les nombreux auditeurs de Beurre FM, est-ce que certains peuvent vous soutenir, j'imagine, en signant la pétition ou en suivant vos actions? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, tout à fait. Ce serait super déjà si les auditeurs pouvaient signer la pétition. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité et puis de prouver qu'Oumar est soutenu en France, dans son pays
d'origine. Où ça?
Alors, la pétition, elle se trouve sur change.org. Ça s'appelle « Pour qu'Oumar reste en France ».
D'accord.
Avant qu'il ne soit trop tard, voilà.
On voit là notamment l'intervention de Patrick Montel, hein, le journaliste historique, qui est intervenu. Comment est l'état d'esprit, Soraya, aujourd'hui au sein du club? On imagine que c'est compliqué avec cette histoire. Hein.
Alors ça a été très très compliqué, surtout il y a une semaine où on a appris que Oumar serait placé en rétention un mois de plus, puisque la préfecture en a fait la demande. Après, il était poursuivi pour avoir refusé des tests PCR qui lui auraient permis de monter dans des avions qui n'ont finalement pas été affrétés. Les charges ont été abandonnées, donc ça c'est une victoire pour nous. C'est un soulagement d'imaginer qu'il n'aille pas en prison pour avoir refusé des tests PCR comme c'est communément le cas.
Mais les partenaires du club, ça peut être les collectivités ou des partenaires privés, quelle est un peu leur situation, leur position par rapport à ça? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que le club est un petit peu isolé? Comment?
Alors, au niveau politique, on a reçu beaucoup de soutien des politiques locaux, autant dans les mairies que les députés, même de tous bords du département. Après, voilà, on a eu une forte mobilisation au niveau de la communauté athlétique. On a notamment Mélina Robert-Michon, Kevin Mayer qui ont repartagé la pétition. On a eu le témoignage de Patrick Montel qui a été très positif dans son témoignage. Donc c'est quelque chose de... On se sent quand même soutenu, mais bon, c'est vrai qu'on est un petit peu démunis au niveau des moyens juridiques qu'on a pour sortir Oumar de rétention.
Il y a actuellement à 20h31, précise, 31 544 signatures sur la pétition. Voilà, donc l'objectif est d'atteindre les 50 000 et c'est bien indiqué que...
Les 100 000.
50 000 signatures déjà, ce serait très bien.
Voilà, autant qu'on peut.
Deviendra l'une des signatures les plus importantes sur change.org. Voilà, donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à signer parce que voilà, c'est extrêmement important et puis ça fait mal, Soraya, quand on, comme vous le dites, vous le connaissez, vous le voyez au quotidien, c'est une personne qui j'imagine bien appréciée au club et se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Dur. Ah, oui, comment il est? Vous allez le voir vous régulièrement. Comment il est? Quel est son état d'esprit aujourd'hui?
Il essaye d'être positif autant qu'il peut et voilà, il reste lui-même. Il est très gentil même au sein du centre de rétention. Il est apprécié même par les policiers qui l'encadrent, etc. Donc il essaye de rester lui-même bienveillant et puis présent pour les autres, ses compagnons de rétention, etc. Et il m'a raconté par exemple qu'hier, il y a un enfant qui a été placé en rétention et qu'il a été lui acheter des sandwichs, etc. parce qu'il n'arrivait pas à manger la nourriture. Enfin, c'est goumard, quoi.
Toujours pour les autres. Mais en termes de perf, en plus, il était, vous avez dit qu'il était sixième en termes de lancer de poids, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il était dans le top 10.
Sa catégorie, oui, tout à fait.
Oui, donc ça prouve que c'est vraiment un espoir de l'athlète français. Enfin, ce serait clairement dommage.
Il a commencé en 2019, il a déjà participé deux fois au championnat de France, donc c'est quand même très prometteur pour un jeune de cet âge-là. Il a bientôt 20 ans. Hein.
Ouais, parce que c'était quelqu'un qu'on pouvait imaginer peut-être quoi pour Paris 2024, elle est 2028 sur sa lignée.
Oui, peut-être.
En passant un cap, bien sûr.
On verra, mais oui, c'est sûr que c'est quelqu'un qui, en tout cas, rayonnera au niveau français, quoi.
Oui, donc ce serait dommage pour la France de se placer d'une pépite comme ça. Et comme vous le décrivez, quelqu'un qui a l'air d'être très bienveillant en plus.
Oui, d'une part au niveau athlétique, je pense qu'il est très performant. Et puis d'autre part, c'est un jeune qui investit dans l'athlétisme. Il essaye de passer ses niveaux d'entraîneur fédéral. Il passe son BAFA pour pouvoir encadrer les jeunes, ce qu'il fait déjà de façon officieuse. Au niveau du NAM, donc il encadre les jeunes une ou deux fois par semaine depuis l'an dernier. Donc c'est vrai que c'est un jeune, si tous les jeunes étaient comme ça, la France serait magnifique. Hein.
Sans transition aucune, Soraya, est-ce que, au vu de l'approche des JO à Paris en 2024, est-ce que, par exemple, l'un de vos objectifs serait peut-être d'être kiné au sein de l'équipe de France d'athlétisme, par exemple ?
Ou d'une sélection ?
Ou d'une sélection, d'une toute autre sélection ?
Pas forcément. Disons que je m'y retrouve bien dans le fonctionnement que j'ai avec le coach et le groupe. Et puis, pour moi, c'est quelque chose d'assez convivial. Et les jeunes, on les connaît, on les apprécie pour ce qu'ils sont et pour leur vie à côté, etc. Donc c'est vrai que moi, je suis très attachée au groupe que je suis actuellement.
Mais même en étant très attachée, j'imagine que vous avez un petit peu d'ambition. Est-ce que, je sais pas, est-ce que par exemple, votre club, on peut se dire, l'ambition, ce serait par exemple de rivaliser avec le CA Montreuil, qui est un peu le club référence en France ?
Ça pourrait.
Ah voilà, donc ça.
Ça pourrait, mais ça, l'avenir nous le dira.
Alison ?
Ben, en tout cas, vous avez une athlète qui s'appelle Céline Distel qui était au jeu, donc peut-être c'est une ambassadrice qui pourrait vous aider à vous faire passer un cap.
Dans le club, on a Aurore Fleury, Benjamin Chouquer, Laurine Zay, qui sont des très bons athlètes également. Hein. Ça, c'est des athlètes de qualité qui nous ont permis aussi d'obtenir de la visibilité pour Omar.
Je rappelle pour terminer hein, sur Omar, qui est arrivé hein, du en provenance du Mali, en passant par l'Espagne, qui a obtenu donc son CAP, hein, monté installation sanitaire, qui était au lycée Héré de Nancy. Voilà, il passait également son BAFA, donc il suivait un cursus plutôt normal. Et c'est pas donné à tout le monde quand on connaît son parcours. Donc n'hésitez pas à signer cette pétition, donc change.org. Pour que Kumar reste en France avant qu'il ne soit trop tard. Soraya, merci encore pour votre intervention. Et puis, écoutez, beaucoup de courage dans ce combat. Et puis, plein de bonnes choses pour vous aussi. Pourquoi pas vous voir
dans un meeting au Congo, par exemple.
Pourquoi pas.
En Afrique, ouais, vous êtes les bienvenus. Il y a nombreuses courses, il y a de nombreux stages et vous êtes les bienvenus.
Voilà, ça marche. Voilà, avec plaisir.
C'était Vivien. Merci Vivien. Soraya, merci encore pour tout et bonne continuation pour la suite.
Merci, bonne continuation à vous.
Allez, on se retrouve juste après.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Nous sommes de retour pour la troisième partie de Time Sport sur Beurre FM avec Alison, avec Vivien, avec moi ce soir. Ça va, Vivien?
Toujours, hein, toujours. Bah, on est mobilisé du coup. Ça a pris une tournure sérieuse l'émission avec la pétition, etc.
Donc, ouais, est-ce que tu peux rappeler un petit peu la pétition, Vivien, justement?
Bah, c'est pour soutenir un athlète de la Lorraine, Oumar, pour que voilà, qu'il soit relaxé. Un athlète français, franco-malien, moi je l'appelle à fort potentiel.
Ouais.
Donc on espère qu'il puisse rester en France et effectivement il est dans sa catégorie, il est dans le top 10 national, donc c'est quelqu'un, pourquoi pas, il est encore en, parce qu'il a à peine 20 ans, donc c'est
et
quelqu'un
puis,
qui a fort potentiel.
Et surtout, c'est ce que je disais avec Soraya, c'est qu'à l'approche des JO 2024, on a besoin de petites pépites comme ça pour représenter la France, pour montrer que la France est une grande nation en athlétisme. Ça fait longtemps qu'on ne gagne pas des titres en athlétisme, donc c'est important d'avoir des pépites qui sont très bien classées, Vision l'a rappelé.
Moi, je me suis arrêté 11e. À Stéphane Zagana. Hein.
C'est ça. Non, mais bon, après, il y en a eu d'autres, Claude. T'abuses un peu. Mais
en il avait été champion du monde, Diagana. Hein,
exactement. Ouais. Mais c'est important de rappeler qu'il y a des pépites comme ça en France, que la France aussi est une terre d'accueil et que les JO, c'est une vitrine. Donc voilà, c'est important de soutenir des causes nobles comme celle-ci.
Allez, on passe à la suite.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Nantes Paris Saint-Germain, il y a pas eu de match, hein. On peut le dire à la Beaujoire, victoire du FC Nantes sur le score de 3-1 face au Paris Saint-Germain avec Alisson, des Parisiens plutôt excités.
Des Parisiens plutôt excités, même très excités. Hein, l'image de Marco Verratti, est-ce que ça change de d'habitude? Non, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, un Marco Verratti qui peste quand ce n'est pas en sa faveur. On a vu un beau match de Neymar, on a vu un match pas mal aussi de Lionel Messi, mais on a vu surtout une défaite du Paris Saint-Germain qui a été surpris très tôt dans le match, parce que Nantes a ouvert le score à la 3-4e minute, c'est ça, si je ne me trompe pas.
Il est à 4.
La quatrième minute, exactement. Et voilà, encore une fois, Paris qui a été cueilli après une belle victoire et une grosse performance en Ligue des Champions. Ça commence à devenir coutumier, ça commence à devenir récurrent, même cette histoire, c'est-à-dire une grosse perf en Ligue des Champions. Ensuite, on perd en championnat, même si effectivement, il y a un matelas assez confortable. Mais en tout cas, on a eu Verratti qui n'était pas content. Verratti qui n'était pas content, et c'est surtout ça qui veut retenir un Verratti pas content.
Et justement, pas le seul, Bruno. Justement, Alisson, donc le Conseil national de l'éthique hein, de la Fédération française de football a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue au sujet donc de ses propos concernant Marco Verratti, qui a eu des mots durs. Comment c'est possible de prendre 10 cartons jaunes? Bon, 6 hein, en réalité. On ne peut pas parler avec l'arbitre, on ne peut rien faire, c'est le seul arbitre au monde avec qui on ne peut pas faire ça. Sur Mbappé, c'est penalty, c'est carton jaune, donc rouge. Comment c'est possible de ne pas donner un carton jaune? Il faut prendre ses responsabilités, parce que des fois, on se fait chier dessus par les arbitres, avait déclaré Marco Verratti.
Alors,
pour
déjà,
cette sortie.
Verratti,
il risque de...
Qui remette un petit peu ses yeux dans ses globes oculaires, parce que je pense que lorsqu'il parle avec les arbitres, ils seront souvent des cartons Verratti. Donc apparemment, c'est pas le seul arbitre avec qui on ne peut pas discuter. Et il est coutumier du fait à chaque fois d'aller pester auprès des arbitres et ensuite de se faire prendre des cartons. Alors, et surtout, ce que j'ai pas aimé dans ce discours, et là, je vise pas particulièrement Verratti, même si effectivement c'est de lui qu'on parle, j'aime pas ce discours de on n'est pas protégé par l'arbitre, nos meilleurs joueurs ne sont pas protégés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que parce que tu t'appelles Lionel Messi et parce que tu t'appelles Neymar, effectivement dès qu'on te bouscule un peu il doit y avoir faute, mais quand tu t'appelles quoi Ilmaz ou un joueur un peu moins...
Un joueur troyen, on n'en parlera pas.
Exactement, et ben là tu peux te prendre des tacles à la gorge et c'est pas grave. J'aime pas moi ce discours, c'est tout le monde logé à la même enseigne, et en plus Neymar a un jeu qui amène, malheureusement, qui amène à la faute. Kylian Mbappé a un jeu qui amène à la faute. Donc oui, ce sont effectivement des joueurs qui subiront beaucoup plus de fautes, parce que c'est le jeu qui amène aux joueurs de les tacler, ou en tout cas de les arrêter dans leur action. Donc j'aime pas beaucoup ce discours, surtout en plus venant de Marco Verratti. C'est pour ça que je suis très peu conciliante. Venant de quelqu'un d'autre, j'aurais pu dire bon, allez, à la rigueur, machin, même si effectivement je l'aime pas, mais c'est pour ça que je suis dure et véhémente avec lui, parce que c'est récurrent, je vais parler à l'arbitre, récurrent, je peste, récurrent, je dis ouais, je dois prendre mes responsabilités, mais il y a toujours un mais derrière. Donc ça m'énerve un peu
C'est clair que malheureusement Verratti vient n'est pas le mieux placé lorsqu'il faut parler d'arbitrage.
Non, c'est ça. Puis, mais cette déclaration, ce qui est fou, c'est qu'il en a eu plusieurs un petit peu comme ça ces derniers mois.
Voilà,
c'est presque un copier-coller d'il y a 6 mois, il y a 1 an. Enfin, et souvent, ce sont souvent des matchs comme ça perdus par le PSG après une grande perf en Ligue des Champions. Alors, moi, par exemple, sur ce nom de PSG, justement, je trouve qu'à la limite, ils auraient dû se focaliser sur l'action de Palois, qui, pour moi, il méritait un rouge parce qu'il met en danger Mbappé et l'intégrité. Exactement. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, ils ont tellement fait tout un cinéma, même Leonardo, etc., qu'après, c'est plus audible. Il vaut mieux se focaliser sur une action et débattre sur ça que faire des grosses théories comme ça en disant qu'on n'est pas, on est désavantagé, on n'est pas favorisé, que... Si le PSG à chaque défaite remettre en question tout l'arbitrage français, ça va pas marcher. L'arbitrage français, il est questionable, comme dire en anglais. On peut le remettre en question, mais pas de cette façon-là. Et du coup, bah forcément, oui, Verratti va prendre un peu pour tout, pour tout son théâtre, pour tout son œuvre, oui, pour tout son cinéma. Donc.
Et surtout, les mots sont durs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en France, on a un arbitrage limite anti-Paris Saint-Germain? Qu'on ne préserve pas le Paris Saint-Germain? Qu'on ne fait pas de cadeau au Paris Saint-Germain? Même si, effectivement, des fois, il y a des décisions arbitrales sur lesquelles on peut revenir. Voilà. On peut se le dire aussi. Mais de le dire de manière aussi véhémente et cette manière-là, de le dire tout haut, tout fort, parce que sur un joueur du Paris Saint-Germain, je peux me permettre de dire que nous ne sommes pas protégés, que nos meilleurs joueurs ne sont pas protégés, c'est pas vrai. Faut savoir rester à sa place, un petit peu, Verratti qui fasse des matchs de 90 minutes comme il les a sortis contre le Real. Là, il est dans son rôle, il est très bon et qui continue comme ça toute la saison. C'est ce qu'on lui demande. Le reste, ça lui appartient pas.
Mais après aussi, il faut accepter qu'il y a certains sportifs, c'est qui ont de la personnalité. Il y en a des sportifs, voilà, ça va être toujours le râleur. Enfin,
oui, mais avoir de la personnalité ne veut pas dire n'importe quoi.
Et là, oui, mais comme on dit, ça fait peut-être que la mauvaise foi aussi fait partie du sport de haut niveau. Et quel que soit le sport, on pourrait penser au foot, à l'NBA, il y a toujours ce profil de joueur qui aime bien, voilà, râler un peu pour tout et n'importe quoi. Il faut accepter aussi cette personnalité-là.
Non, mais c'est mignon au début quand on voyait Verratti, le petit jeune. On dirait, excusez-moi, je vais être un peu aussi vulgaire que Vivien.
Ah non, Alison. Ah non, je suis obligé de prévenir.
On peut dire,
ça n'en garde que vous, ces propos.
C'est un gamin, il a des couilles, il va vers l'arbitre.
Oh là là.
Il va vers l'arbitre, voilà, il pèse, il a de la personnalité, c'est un Italien, voilà, on aime bien. Mais après, quand c'est récurrent, c'est plus drôle, c'est chiant. En plus, il est catalogué pour ça, Verratti. Donc, il sait automatiquement
il a une image de bad boy.
Que quand il va aller voir l'arbitre, juste pour lui dire, mais monsieur l'arbitre, il y a faute, et bien c'est Verratti, il va se prendre un carton, à tort ou à raison. Et je trouve que c'est pas intelligent et c'est pas judicieux de sa part de faire une sortie en grande pompe comme ça et dire n'importe quoi de cette manière-là. Je trouve ça pas classe de sa part.
Moi, je vous invite à voir le match entre le Portugal et le Brésil lors de la Coupe du Monde 1966 et le traitement qui avait été infligé à Pelé. Là, vous allez voir ce que c'est vraiment qu'un traitement infligé. Après, c'est vrai que ça a toujours existé. Voilà, ce traitement. Alors, on ne dit pas qu'on est d'accord, mais lorsque tu as des joueurs qui ont une technique au-dessus de la moyenne, etc., un peu provocateur de par leur jeu, on ne dit pas forcément que c'est la meilleure défense, Alisson, mais ça a toujours existé. Enfin, je veux dire, voilà, quand t'as des joueurs comme ça, t'as envie de
un artiste, oui,
t'as envie de les soulever, les joueurs.
Bien sûr. Non, mais c'est ce que je disais en préambule. Quand on voit un Neymar qui devant toi te met un passement de jambe et qui revient, te remet un crochet, un sombrero derrière, bah ouais, t'as envie de faire une diawara contre le Real et tacler et laisser Cristiano Ronaldo. Oui, t'as envie de le faire. Est-ce que c'est à faire? Non, c'est pas à faire. Mais de là, en fait, ce que je dis, c'est pas que ça n'existe pas. C'est pas que les joueurs, les artistes entre guillemets, doivent subir plus de fautes que les autres. C'est pas ce que je dis. C'est que, en fait, le dire ouvertement comme ça, dire nos joueurs doivent être plus protégés, ça veut dire qu'on vient, on bouscule un petit peu ou on tacle un petit peu trop fort, ou juste on chatouille les chevilles de Lionel Messi, et ben ça doit être carton automatiquement. Non, si on chatouille les chevilles de Lionel Messi, s'il y a faute, il y a faute. Mais Lionel Messi ou un joueur, excusez-moi, de seconde zone, s'il y a faute, il y a faute aussi pour lui. Tu vois, donc c'est pas, il faut en fait voir les choses globalement et garder les proportions.
Oui, après, c'est moi, je vois ça comme la guerre de communication. Le PSG, c'est un grand club, ça met de la pression sur l'arbitrage. C'est, en fait, moi, je trouve que c'est pas bien, mais d'un côté, je me dis, c'est un peu de bonne guerre. C'est-à-dire, voilà, le PSG qui va un peu mettre la pression comme ça après une défaite.
Moi, je trouve que ça va jouer en leur défaveur. Pourquoi ça va jouer en leur défaveur? Parce que le corps arbitral écoute aussi. Donc,
enfin, ils ont 15 points d'avance.
Non, mais peu importe. On va dire quoi? On va dire, ah, bah, si on siffle pas, du coup, pour le Paris Saint-Germain, ça veut dire que les propos de Marco Verratti, il y aurait eu une caisse de résonance. Et ben, peut-être que ça va amener les arbitres à être plus durs avec le Paris Saint-Germain, justement, pour prouver le contraire. C'est ce qui me fait peur qu'on prenne le contre-pied total et que ça joue en leur défaveur, malheureusement.
Et puis ça, malgré tout, il n'y a pas que Verratti. Enfin, on se souvient d'Mbappé qui avait des propos qui étaient sortis sur Canal, enfin je sais plus, chez un des médias.
Il y a quelques matchs là.
Voilà, quelques matchs quand il a dit c'est pas arbitré, c'était en fin de première mi-temps. C'était pourtant Verratti, il est assez dur, mais ce qui, la manière dont il a dit Mbappé, moi je trouvais que c'était hyper violent ça par exemple. Et ça en était bien sorti sans rien. Donc voilà, c'est.
Non, je pense que c'est la répétition de Verratti. Là. Il doit avoir tous ses derniers propos qui ont été analysés. Et je pense que mis bout à bout, ça fait.
Ah, ben c'est sûr, ça fait 10 ans qu'il nous fait ça en France, donc en Ligue 1. Donc,
J'étais avec vous vendredi, on n'a pas eu le temps vraiment d'évoquer la situation. On a un peu plus de temps ce soir. Tu parlais donc des propos assez hallucinants de Mbappé qui s'en est plutôt bien sorti. Est-ce que pour vous, Kylian Mbappé doit rester au Paris Saint-Germain après la proposition assez hallucinante de la part du bord qatari, Alison?
Alors, doit, non, parce que c'est pas une obligation, mais est-ce que Kylian Mbappé pourrait rester au Paris Saint-Germain? Moi, je trouve que ça me ferait ça ferait plaisir, en tout cas, de revoir Kylian Mbappé encore sous le maillot parisien. Mais je pense quand même, voilà, même si je me ferais pas beaucoup d'amis, je pense que pour passer réellement et définitivement dans une autre dimension, il doit partir au Real Madrid. On sait que voilà, à côté de la marque Real Madrid n'est pas la même que la marque Paris Saint-Germain. Quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on puisse dire, jouer au Real Madrid, c'est pas la même chose que jouer dans un autre club. Mais pas que le Paris Saint-Germain. Pour le coup, c'est l'un des plus grands clubs au monde. Je pense que quand tu portes le maillot blanc de Madrid, t'es automatiquement une star, aussi joueur moyen que tu sois. Donc je pense que vraiment, pour définitivement passer dans une autre dimension
et asseoir
son autorité, en tout cas sur le football mondial, Kylian Mbappé devrait partir, mais on aimerait bien le conserver à Paris.
Oui, alors la réalité, un dilemme, Vivien, forcément, quand on voit Mbappé, on a envie de le conserver le plus longtemps possible en Ligue 1, donc au Paris Saint-Germain. Mais pour sa carrière, est-ce que en restant au PSG, même en ayant le salaire le plus important au monde, ça lui permettrait de prendre la dimension attendue pour un joueur de sa trempe, ou il vaudrait mieux qu'il parte un moment ou un autre dans clairement l'un des plus grands clubs du monde? On rappelle comme que le Real Madrid compte 13 Ligues des Champions.
Bah justement, c'est cet argument des 13 Ligues des Champions, et en plus que les Ligues des Champions, c'est vraiment l'institution que représente le Real dans le monde entier. Alors même si Paris a fait quand même une belle décennie, Qatari, que c'est vraiment un club référence, non, clairement, il faudra qu'à un moment ou un autre, en plus, je pense en termes d'exigence, qu'il parte à Madrid. Alors moi, par exemple, je serais quelqu'un qui aimerait bien voir Mbappé rester jusqu'au JO de Paris 2024 et partir à Madrid après. Alors pourquoi les Jeux, même si au foot, bien sûr, ça ne représente pas grand-chose, c'est que je trouve que les Jeux de Paris, en termes d'image...
Est-ce qu'il y a besoin que Mbappé reste au PSG pour disputer les JO en France?
Alors,
c'est un argument, ça, qui tient.
Je pense qu'en termes de football, non, parce que Vivian l'a dit, hein, les jeux au foot, le football, pardon, aux Jeux Olympiques, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Mais en tout cas, je pense qu'en termes d'image pour la France, quel plus bel ambassadeur que Kylian Mbappé à travers le monde. Donc oui, on aimerait bien le voir partout sur les affiches dans le monde et en France être l'ambassadeur des Jeux. Mais est-ce que lui a vraiment envie de rester au Paris Saint-Germain? Elle est là, la vraie question.
Non, clairement, sa tête semble être à Madrid, même si je pense que c'est peut-être pas fait à 100%, mais on sent que tôt ou tard, il sera du côté de Santiago Bernabéu.
Alors, il y a un papier qui est sorti hein, de nos confrères de l'équipe. Quand on lit visiblement, alors après apprendre avec des pincettes, il demande quand même des exigences assez assez étonnantes.
Oui, hein, c'est que les plus de faveurs pour les Sud-Américains.
Pour les Sud-Américains, au conditionnel.
Plus de faveurs pour les Centra-Américains, beaucoup plus de rigueur au niveau de l'entraînement.
Ouais, et même pour les stars.
Pour les stars, un entraîneur plus star, je crois, ou un entraîneur beaucoup qui a une plus grande envergure. Enfin, il demande pas mal de choses.
Il demanderait un bon de sortie quand même en 2023.
Bah c'est oui exact. Bah on va le prendre au conditionnel, mais on va dire si tout ça est vrai, je me dis peut-être qu'il faut accepter qu'il parte cet été parce que ça veut dire qu'en gros le PSG va se coucher devant Mbappé pendant un an et au final s'il part pas cet été il va partir l'année d'après. Donc surtout dans les exigences, on a l'impression qu'Mbappé c'est le nouveau général manager. Alors tout Mbappé qu'il est, pour moi il faut qu'aucun joueur soit au-dessus d'une institution. Comme en NBA, tout le LeBron James qu'il est, faut pas qu'il soit au-dessus des Lakers, par exemple.
Après, là où je le défendrais, c'est que effectivement, ce qu'il demande, ça a du sens. Il demande pas non plus avoir la meilleure place dans le vestiaire et la meilleure place sur le banc ou.
C'est au parking, il a déjà.
Mais je veux dire la meilleure place quand il fait ses lacets sur le banc. C'est il demande beaucoup plus de rigueur pour faire passer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension, éventuellement gagner la Ligue des Champions. Donc c'est des exigences qui peuvent s'entendre aussi. C'est pas farfelu.
Dernière information qui vient d'arriver donc d'Espagne, le club merengue. Ne compte pas abandonner hein, le dossier de Mbappé, l'accompagner donc du technicien avec qui il est très proche. On parle de Mauricio Pochettino, selon le journal le Daily Mail. Le Real Madrid envisagerait sérieusement de changer de coach l'été prochain pour installer le technicien du PSG sur le banc. D'après la publication britannique, des doutes augmentent au sein donc de la Maison Blanche concernant Carlo Ancelotti et Pochettino serait le candidat idéal pour le remplacer, d'autant plus que son départ du PSG à la fin de la saison fait de moins en moins de doutes et le Real Madrid compte donc sur ce dossier pour faire coup double, à savoir convaincre un peu plus Mbappé de débarquer en Espagne pour suivre un coach qu'il apprécie énormément.
Bah, au début, ça me paraissait farfelu, mais quand on dissèque bien ce que dit Mauricio Pochettino, il y a quand même deux trois sublis hein, dedans. On dit oui, il dit oui. J'ai une relation particulière avec Kylian Mbappé. Il parle très bien espagnol, on s'entend très bien. Mes consignes passent très bien avec lui. Voilà, Kylian Mbappé, je l'affectionne bien, etc., etc. Donc est-ce que ça va être le package coup double pour les Real? Pourquoi pas?
Dernière question avant de vous quitter. Est-ce que Djokovic doit reprendre les cours, vacciné ou non vacciné? C'est même pas une histoire de vacciné ou non vacciné, Alisson. Hein.
On a besoin de Kylian Mbappé à Paris, on a besoin de Djokovic sur un
coup. Et les passes sont en train de sauter partout dans le monde. Donc, moi, je vais voir Djoko à Roland-Garros, par exemple.
Ouais, donc Djoko sera certainement à Roland-Garros. Merci, Alisson. Merci, Vivien. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro, cette nouvelle émission Thème Sport sur Beurre FM. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain, même heure, 20h-21h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.